L'apôtre Paul décrit dans son épître adressée à l'Église de Rome, au chapitre 1, verset 15, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Nous pensons que Paul a écrit donc cette lettre aux environs de l'an 58, alors qu'il était à Corinthe, qu'il s'apprêtait à se rendre à Jérusalem, mais il avait à cœur après cela d'aller en Espagne, continuer l'œuvre d'évangélisation, l'œuvre apostolique en Espagne, mais pour cela, il devait passer par Rome, et il avait un grand désir de se rendre à Rome depuis longtemps. Nous ne connaissons pas l'origine de l'Église de Rome. Parmi les témoins de l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte à Jérusalem, il y avait des Juifs et prosélytes qui étaient venus de cette ville-là. On trouve ça dans Actes chapitre 2, verset 10. Merci. Il est possible que certains d'entre eux aient débuté l'assemblée à leur retour dans la ville impériale, qui comptait à cette époque environ 1 million d'habitants et une importante population juive. Quoi qu'il en soit, on s'entend pour dire que ce chandelier de Christ avait été allumé par des croyants issus de la synagogue auxquels s'étaient ajoutés plus tard des convertis donc venant du paganisme et qui en vinrent à dépasser en nombre les premiers. Cette église était connue des communautés de disciples existantes déjà à cette époque pour sa foi, justement, qui était renommée dans le monde entier. Donc, on savait depuis longtemps que l'Évangile avait pénétré la cité de César, le cœur même de l'Empire païen, que l'Évangile s'était implanté et avait porté du fruit à la gloire du Fils de Dieu. Comme je l'ai dit, Paul, en écrivant donc son épître, fait référence au fait que leur foi, la foi des chrétiens de Rome, était renommée dans le monde entier. Bien sûr, renommée dans le monde entier veut dire dans les églises existantes à cette époque-là. Renommée, on pourrait traduire par publier, célébrer, proclamer. Un bon témoignage. Lorsqu'on parlait de l'Église de Rome, on parlait d'une Église qui, de toute évidence, allait bien et portait du fruit à la louange et à la gloire de notre Dieu. C'était donc une congrégation bien fondée dans la vérité, un chandelier qui faisait rayonner la lumière de Christ, et ce depuis plusieurs années. Pourtant, Paul avait un grand désir, un profond désir, et ce depuis des années, de visiter les frères et les sœurs qui résidaient à Rome afin de leur annoncer l'Évangile. Et c'est ce dont il se proposait, comme je le disais tout à l'heure, avant de se rendre en Espagne. Nous lisons dans Romains, au chapitre 1, les versets 9 à 15, ceci. « Dieu que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car j'espère pour vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, on pourrait traduire par consolidés, fortifiés, mieux établis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois, en raison de la grâce, de l'appel qu'il a, et Paul nous dit ici, c'est en raison de la grâce qu'il avait reçue, donc il se devait, donc, il avait une dette envers les Grecs, les barbares, les savants et les ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Plusieurs comprennent ces mots de l'apôtre Paul comme signifiant que celui-ci voulait annoncer le message de la croix aux Romains en général, c'est-à-dire aux inconvertis. Et certainement que Paul espérait toucher des non-croyants en allant à Rome. Paul était un gagneur d'âme, hein, dans l'âme tout simplement. Mais dans le contexte présent, l'idée n'est pas celle-ci. C'est vraiment d'annoncer l'Évangile à une église bien établie. Sans, bien sûr, mettre de côté l'idée d'atteindre aussi les gens du dehors. Et Paul se considérait donc comme le débiteur aussi des frères et des sœurs qui résidaient à Rome. Et ce qu'il voulait, c'était donc leur faire connaître plus en profondeur les richesses absolument insondables de l'évangile de Christ tel que ses richesses lui avaient été révélées. Nous, on se rappelle donc, puisqu'il était un apôtre, Paul lui-même avait été enseigné directement par la personne du Seigneur Jésus-Christ après la résurrection de ce dernier, ce qui lui a valu d'ailleurs de grands combats, puisqu'on disait qu'il ne faisait pas partie du groupe des douze, qu'il n'avait pas participé au ministère public de notre Seigneur, et lui de se défendre en disant « j'ai été enseigné directement par le Sauveur ressuscité et notamment la puissance qu'il déploie à mon égard, au niveau même des miracles et tout cela, sont la preuve que j'ai été commissionné par celui-ci pour annoncer l'Évangile. » Le premier point ce matin, c'est un besoin essentiel. Un besoin essentiel. L'Église, en général, restreint l'annonce de l'Évangile à sa proclamation à ceux du dehors. Et là, je suis en train de dire qu'il ne faut pas proclamer l'Évangile, au contraire, à ceux du dehors. Au contraire, nous devons même grandir dans notre zèle. Nous devons avoir un fardeau plus grand pour ceux du dehors. L'Église ne doit pas se refermer sur elle-même. Elle doit apprécier la sainte doctrine, elle doit l'approfondir, elle doit la connaître, mais cela devrait produire en nous un plus grand zèle envers ceux du dehors, tout en sachant que Dieu s'est choisi un peuple lui-même souverainement. Mais voilà, ce peuple, il existe, il est là. Et nous avons été, comme Église, nous existons pour proclamer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est une erreur que de limiter l'évangélisation, la proclamation de l'Évangile seulement à ceux du dehors. C'est une erreur malheureuse, une dichotomie, n'est-ce pas, qui produit du mauvais fruit au sein des églises locales. Alors que l'on pense qu'une fois qu'on a proclamé de façon initiale donc le message du salut, bien, c'est terminé, maintenant on passe à autre chose. Et là, cette dichotomie-là, entre cette évangélisation initiale et ce qui vient après, eh bien, elle est artificielle, elle est dangereuse, parce que même ce que l'apôtre Paul écrit dans le reste de son épître, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile expliqué, c'est l'Évangile approfondi, c'est aussi la mise en pratique de cet Évangile, enfin, la puissance de l'Évangile, n'est-ce pas, qui donne la vie et qui sanctifie, et tous les fruits qui doivent en découler dans la vie du croyant et de l'Église. Et donc, de même qu'on ne peut pas atteindre les gens du dehors, de même que les gens du dehors ne peuvent pas être appelés à Christ s'ils n'entendent pas l'Évangile, si l'Église n'entend pas l'Évangile constamment, il lui manque quelque chose. Elle ne pourra pas croître comme il se doit. Elle ne pourra pas grandir dans sa foi. Et c'est pourquoi l'Évangile doit retentir dans toute sa plénitude, dans toute sa splendeur, afin que l'épouse de Christ puisse croître dans la grâce et accomplir sa mission en portant bien haut le flambeau de la vérité au sein des ténèbres présentes. C'est un besoin essentiel. On entend beaucoup parler de cela aujourd'hui, les besoins essentiels au Québec, n'est-ce pas? Il y a effectivement des besoins essentiels, mais il y a un besoin essentiel dans le monde, c'est la proclamation de l'Évangile. Et il y a un besoin essentiel pour chaque église locale, c'est que l'Évangile y soit proclamé. Cette coupure opérée entre l'annonce de l'Évangile et l'édification des saints est, comme je le disais tout à l'heure, de nature artificielle, et elle tend à conduire à ne pas persévérer dans la course qui nous est proposée sur le même terrain où nous avons débuté celle-ci, à savoir la grâce seule. C'est comme si on dit, bon, maintenant j'ai été sauvé par la grâce seule, par le sang précieux du Seigneur, mais sans même nous en rendre compte. Et même pour nous réformés baptistes, n'est-ce pas, c'est parce que c'est un réflexe inné du vieil homme en nous de vouloir nous reprendre en main, hein, et de mettre de côté cette grâce souveraine de Dieu pour dire maintenant, je me dois de me sanctifier moi-même, je me dois moi-même de faire tout ce qui est en mesure pour persévérer. Et il est vrai que nous devons nous sanctifier, mais toujours sur le même terrain, puisque c'est impossible pour nous en tant que tel. De même qu'il est impossible à une personne d'être sauvée, à moins que Dieu n'agisse efficacement, et pour cela, il faut qu'elle entende le message, parce que Dieu opère par sa parole. De même, nous ne pouvons aller de l'avant en tant que croyants, à moins que nous ne demeurions sur le terrain initial de l'Évangile de la grâce souveraine de notre Dieu. Si nous ne faisons pas cela, sans même nous en rendre compte, nous allons dévier de la course qui nous a été proposée, nous risquons de nous égarer, nous allons nous leurrer nous-mêmes, même si, a priori, les choses semblent bien aller, nous allons tomber, pour employer une bonne expression biblique, dans la chair. Hein, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va être à l'œuvre, mais bien le vieil homme qui aime bien se déguiser sous le couvert de la vertu. Cet évangile, il est immuable, il demeure le même à toujours. Il convient à tous les hommes et femmes de toute provenance et condition qu'ils soient. Il sied parfaitement à toutes les époques, cultures et régimes politiques sans que nous ayons besoin de l'adapter, d'y retrancher ou d'y ajouter quoi que ce soit. Nous devons au contraire en préserver l'intégrité totale, la pureté, malgré le fait qu'il est un objet de scandale et une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'évangile est et va demeurer une offense pour le monde, pour ceux et celles qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, qui demeurent aveuglés par leurs péchés. Il n'en demeure pas moins que c'est là, à l'instar de l'apôtre, l'étendard que nous devons élever bien haut avec fierté et courage, et ce malgré l'opposition que nous pouvons rencontrer, non seulement de la part de ceux du dehors, mais aussi de ceux du dedans. Le combat, il est à l'extérieur. Le monde ne veut pas entendre parler de l'Évangile, mais même dans l'Église, il y a des résistances. Que ça vienne de chrétiens qui manquent de maturité, qui sont encore, comme pour expliquer, pour reprendre l'expression de Paul, charnels, non pas qu'ils sont charnels en eux-mêmes, ils sont nés de l'Esprit de Dieu, mais ils ont encore des raisonnements charnels. Et en un sens, on l'est tous, sans exception sur certains points de notre vie, mais bien sûr, il y a aussi l'ivraie. Quoi qu'il en soit, c'est un combat continuel. Ceux qui sont appelés au ministère, et je vois des jeunes gens ici, vous devez savoir être bien au courant et convaincu que le combat va demeurer jusqu'à votre mort. Et en fait, le combat va demeurer au sein de l'Église jusqu'au retour du Seigneur. Il a commencé depuis la première proclamation de l'Évangile. En fait, il a même commencé sous l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas? Et il ne se terminera qu'au retour du Seigneur. Notre mission, notre devoir, c'est de continuer à lever bien haut la bannière de la vérité, même si cela suscite de nombreux boucliers, encore une fois, non seulement de la part de ceux du dehors. Pour ceux du dehors, c'est absolument irrecevable le véritable évangile, à moins que Dieu n'œuvre dans leur cœur. Mais au sein de l'Église aussi, il y a des réticences, notamment lorsque nous parlons de la grâce souveraine de notre Dieu. Mais même si ce n'est pas toujours exprimé comme cela, même si les gens parlent du salut par la foi seule, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils comprennent. Et cela va se manifester dans leur manière de vivre, dans leur manière de pratiquer l'Évangile. L'apôtre Paul de dire « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Le véritable évangile, celui que Dieu nous a révélé en la personne de son Fils, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai point honte de l'évangile, ni en dehors de l'Église, ni dans l'Église. L'apôtre Paul était un homme plein de grâce, un gagneur d'âme, un pasteur absolument extraordinaire. Il savait comment approcher les âmes, mais son évangile ne changeait jamais. Ce qu'il voulait, c'est que l'évangile soit implanté dans les cœurs, que ceux qui le recevaient puissent le comprendre et porter beaucoup de fruits. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Le salut, c'est non seulement le salut initial, c'est non seulement le fait de venir à Christ, hein, mais c'est la délivrance de tout mal possible. Ce salut, il continue à opérer au sein de l'Église par la sanctification. Je pense qu'on en a eu un beau témoignage aujourd'hui à travers les rapports que nous avons reçus. Nous voyons la grâce de Dieu agissante. On aimerait qu'elle agisse encore plus. Et nous devons désirer. Nous devons avoir faim, soif de voir notre Dieu agir. Parce que l'Évangile, c'est une puissance avant toute chose. C'est intéressant. Paul ne dit pas ici, c'est une doctrine. C'est une doctrine. Mais ce ne sont pas seulement des paroles. C'est une puissance glorieuse à laquelle rien ne peut résister selon le plan de Dieu. Et nous avons besoin de voir notre foi croître à cet effet, de croire que l'Évangile porte du fruit, hein, et qu'il va porter encore beaucoup de fruits. Et Paul de donner comme preuve de ce qu'il dit, que le juste vivra par la foi. Intéressant ici parce qu'il cite l'Ancien Testament, ça nous rappelle ce que notre frère nous a partagé hier, à savoir que Christ est partout dans l'Écriture. Il est dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament, annoncé, préfiguré, symbolisé sous l'Ancienne Alliance, mais en rappelant que les saints étaient sous les bénéfices de cette nouvelle alliance, n'est-ce pas, qui n'était pas encore conclue. Et bien sûr, il est révélé et proclamé dans toute sa plénitude dans le Nouveau Testament. Paul, lorsqu'il nous dit que le juste vivra par la foi, alors il nous dit selon ce qu'il est écrit, il cite le prophète Habacuc au chapitre 2, verset 4. « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Deuxième point, le juste vivra par sa foi. Un besoin essentiel, que l'Évangile soit proclamé non seulement à ceux du dehors, mais qu'il soit continuellement proclamé dans l'Église. Ça veut dire que tout ce que nous prêchons et enseignons doit être l'Évangile. Bien sûr qu'on touche à toutes sortes, à différentes doctrines, n'est-ce pas, à différents points concernant la parole de Dieu, mais on doit toujours revenir à la personne de Christ. Le juste, donc deuxième point, le juste vivra par sa foi. Ces mots s'inscrivent donc dans la réponse que le Seigneur a donnée au prophète Habacuc, qui ne pouvait comprendre que Dieu, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, puisse se servir des Babyloniens pour châtier son peuple. Habacuc était déconcerté par cela, par l'annonce de moments extrêmement difficiles qui s'en venaient. Il connaissait la loi, il connaissait les menaces que Dieu avait déjà adressées à son peuple s'il se détournait de lui. Mais à son questionnement, Habacuc donc se voit exhorté à vivre par la foi. Le Seigneur mettant donc en contraste le méchant orgueilleux et corrompu avec le juste. Dans le contexte, c'est le Babylonien, le méchant corrompu et orgueilleux, mais en fin de compte, le Babylonien devient représentatif de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, de tous ceux qui ne marchent pas par la foi, qui sont dans l'incrédulité. Ils ont des cœurs orgueilleux, ils sont corrompus. De notre côté, le juste, c'est celui qui marche dans l'humilité, dans une pleine confiance en Dieu et dans ce qu'il fait. Mais il ne faut pas comprendre ici le terme « juste » comme désignant, du moins premièrement, le caractère moral de l'individu. Ce mot désigne plutôt que celui-ci a été déclaré juste par grâce, et cette grâce, il l'a obtenue par la pure miséricorde de Dieu. Car vivre par la foi dans les Écritures signifie avoir placé sa confiance en celui qui justifie l'impie sans les œuvres de la loi. C'est ce que Paul explique clairement et sans ambiguïté possible un peu plus loin dans sa lettre. On retrouve ça dans Romains chapitre 4, les versets 1 à 8. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a reçu ça selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est extrêmement clair ici. Alors, l'apôtre fonde son propos encore une fois sur l'Ancien Testament, qui à nouveau marque l'unité donc entre celui-ci et le Nouveau. Il fait appel maintenant à Abraham ainsi qu'à David. Et concernant donc Abraham, le père des croyants, il fait référence au moment où le Seigneur a réitéré donc au patriarche qui avançait en âge et dont l'épouse était stérile, sa promesse d'une postérité. Alors Abraham revenait d'une victoire contre les rois, n'est-ce pas, qui venait de délivrer son neveu Lot. Il avait remporté la victoire sur 5 rois, mais le temps avançait. Il vieillissait, il était dans une terre étrangère, son épouse était stérile, elle l'avait toujours été, et il ne voyait pas la postérité qui avait été promise. Alors lui, il se disait même, ça va être le fils de mon serviteur hein, qui va devenir mon héritier en tant que tel. Et le Seigneur le reprit. Ça dit, ce n'est pas lui. Alors Dieu lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, le fils de ton serviteur, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Quand je lis ce texte, Je me souviens, ça me rappelle toujours lorsque le père de Marie-Josée est décédé en 2001, c'est bien ça. Nous avons dû, donc, il vivait en France, c'était un Français, et on a dû se rendre, donc, en France. Il vivait dans un village situé dans les Pyrénées. On n'a pas pu habiter dans sa maison même, mais on a dû se rendre un petit peu plus haut. Mais on était, vous savez que les Pyrénées, ce sont des montagnes très, très hautes. On était au sommet d'une montagne, dans un petit village qui, probablement, date du Moyen Âge. Et après avoir mangé, le soir, on allait se promener un petit peu, et presque pas de lumière. On était très, très haut, en altitude. On pouvait entendre, il y avait un silence, on entendait le son le bêlement des chèvres et les clochettes, mais le spectacle, le plus incroyable qui soit, c'est quand on levait les yeux vers le ciel. Vous savez qu'aujourd'hui, même un peu partout maintenant, on ne voit plus le ciel comme auparavant. C'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Hein? À Québec même, d'ailleurs, on ne voit pas grand-chose. On voit la lune, quelques étoiles, et c'est tout. Là. Mais là, on voyait le ciel probablement comme Abraham l'a vu. C'est absolument incroyable. Impossible à compter tellement il y a d'étoiles. En fait, c'est notre voie lactée. Hein? C'est vraiment ce que on l'appelle ainsi parce que c'est comme un voile blanchâtre. De la manière, c'est la position de la Terre lorsqu'elle est située face à la voie lactée, sa galaxie, n'est-ce pas? Il y a tellement d'étoiles et de luminosité qu'on a l'impression qu'il y a un voile blanchâtre. Mais le nombre d'étoiles, c'est hallucinant, si vous permettez l'expression. Alors, imaginons-nous Abraham qui avance en âge, sa femme est stérile, sur une terre étrangère. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Il nous est dit qu'Abraham crut et que cela lui fut imputé à justice. Maintenant, les Juifs, au premier siècle, c'est ce qu'ils croient aussi encore aujourd'hui, du moins ceux qui sont religieux, ils considéraient la foi d'Abraham comme méritoire devant Dieu. Ils croyaient que Dieu avait choisi Abraham parce qu'il avait vu quelque chose de bon en lui. C'est la raison pour laquelle il avait mis à part pour devenir le père de la nation d'Israël. Mais Paul, l'ancien pharisien, bien sûr, s'oppose à cette interprétation erronée. C'était une interprétation, bien sûr, qui voilait le véritable sens. Et Paul veut à nouveau faire briller à nos yeux la beauté et la puissance glorieuse de ce passage. À savoir qu'Abraham savait qu'il était indigne d'une telle promesse, même de l'appel que Dieu avait mis sur lui. Abraham savait qu'il était pécheur. Abraham était passé par la repentance et s'était tourné vers le véritable Dieu. Il avait abandonné ses idoles lorsqu'il était en Chaldée. Et donc, alors que Dieu lui rappelle la promesse, notre Dieu qui est fidèle, Abraham ressent toute son indignité. Mais il croit la promesse. Mais il sait qu'il ne mérite pas cela, tout simplement. Et il met sa confiance en Dieu. Vous savez, il peut nous arriver plus que bien souvent de ressentir notre indignité. Enfin, on ne la ressent pas assez même, mais notre indignité ne devrait pas nous amener à douter des promesses de Dieu. C'est justement, personne d'entre nous n'est digne, mais les promesses de Dieu sont. Elles demeurent. Et quand je repense à ce ciel-là, c'est tellement glorieux à voir en tant que tel. Vous savez, les promesses de Dieu sont tellement plus glorieuses que tout cela. Ça nous dépasse ce que Dieu nous promet pour l'éternité. Ce que Dieu nous a déjà donné d'ailleurs, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à y croire parce que nous n'avons pas besoin de chercher nous-mêmes à acquérir ces choses par notre propre vertu. Il nous les a données en Christ Jésus. Je rappelle bien sûr que Abraham, comme tous les saints sous l'Ancienne Alliance, s'approchait du Seigneur en sacrifiant des victimes innocentes par lesquelles était accomplie la propitiation de leur faute, du moins. Il pensait que cela était ainsi. Bien sûr, c'était des images, hein, des représentations, des ombres de la réalité à venir, à savoir la personne de Christ. Mais en ce faisant, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient indignes de s'approcher de ce Dieu infiniment saint, hein, qu'ils avaient transgressé sa sainte loi. Hein, et qu'ils méritaient la mort. L'animal, lorsqu'ils le mettaient à mort, ils étaient en train de confesser que c'est ce qu'ils méritaient, mais que le Dieu saint, plein de grâce, leur permettait de venir dans sa présence en autant que le sang écoulait à leur place. Nous avons déjà ici l'Évangile dans toute sa puissance. Ils savaient qu'ils étaient au bénéfice d'une justice qui ne leur appartenait point. Bien sûr, ils n'avaient pas autant de lumière que nous aujourd'hui, mais voilà. Pour nous qui avons la connaissance de l'Évangile dans toute sa plénitude, combien plus nous devrions être reconnaissants devant notre Dieu, n'est-ce pas, pour un tel salut qui ne vient absolument pas de nous, mais de Dieu et de Dieu seul. Comme je disais tout à l'heure, cette foi implique premièrement la repentance, la métanoïa, qui est un changement dans notre manière de penser, de réfléchir, dans notre attitude intérieure, n'est-ce pas, qui fait que nous nous détournons de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. Et je rappelle aussi que les saints sous l'Ancienne Alliance avaient les yeux rivés sur le Messie à venir, le salut à venir. Ce n'est pas toujours très très clair. Et ce qu'on voit sous l'Ancienne Alliance, c'est progressivement la révélation de ce salut-là, de ce Messie-là. Mais l'idée, c'est que la foi authentique dans les Écritures, c'est une foi rivée sur le Messie, sur le Fils de Dieu, qui a pour objet le Fils de Dieu, et c'est une foi qui reconnaît son indignité. Celui qui la possède sait qu'il est un pécheur. Il sait qu'il ne mérite pas de s'approcher de Dieu, mais que Dieu lui en accorde la capacité par pure grâce, par pure miséricorde, et qu'il nous appelle à jouir de tout cela. Et c'est en raison de cette foi-là que nous pouvons maintenant oser nous approprier les promesses de Dieu. Pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous les offre. C'est de là que vient la véritable assurance, justement. Troisième point, l'exemple de Paul lui-même. L'importance de se prêcher l'Évangile constamment, de revenir à la base, que l'Évangile, c'est Dieu qui a lui-même pourvu à une justice que nous ne possédons pas en la personne de son Fils. Et ça, c'est la raison pour laquelle Paul lui-même ne cessait de se prêcher l'Évangile et qu'il ne cessait de le prêcher à l'Église constamment et qu'il guerroyait, qu'il combattait jour après jour pour préserver cet Évangile devant ceux qui voulaient le falsifier ou l'altérer, le détruire complètement ou le renverser même. Pour Paul, la connaissance de Christ, la connaissance de l'Évangile, était la connaissance la plus importante et la plus précieuse qui soit, la perle de grand prix pour laquelle il avait renoncé à tout, pour laquelle il combattait sans cesse, comme je viens de le dire, pour laquelle il livrait une bataille incessante contre l'idée mensongère que le vieil homme orgueilleux et impénitent ne cessait de lui souffler à l'oreille qu'il possédait quelques vertus personnelles devant Dieu qui lui avaient valu et qui lui valaient encore les bonnes grâces de ce dernier, qu'il avait coopéré et qu'il continuait à coopérer d'une manière ou d'une autre à son salut, et ce même de la façon la plus minime qui soit, penser qui foule aux pieds, bien sûr, le Fils de Dieu et qui profane son œuvre accomplie au calvaire. Même Paul devait combattre cela. C'est dans le vieil homme, c'est en nous. Le vieil homme, il est pélagien. Il croit vraiment qu'il a la capacité par lui-même de faire le bien ou de faire le mal et de décider par lui-même s'il veut servir Dieu ou s'il veut cesser de faire ainsi. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 11, l'apôtre Paul explique ceci. Face à des hérétiques qui prêchaient un salut par les œuvres, pour le moment des judaïsants, il écrit ceci. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ainsi, je pourrai vivre pour Christ comme il se doit. L'apôtre Paul, après des années de ministère, de service, continuait à travailler, à faire en sorte qu'il ne soit pas trouvé devant Dieu avec sa propre justice. C'était un combat pour l'apôtre lui-même et c'est un combat pour chacun d'entre nous. Paul explique ici que ce qui était des gains pour lui avant sa conversion, ce qu'il considérait comme ayant une valeur au niveau de sa justification devant Dieu, donc tous ses privilèges nationaux, religieux, le fait d'être pharisien, son zèle pour la loi, il une fois qu'il est venu à Christ, une fois que la lumière de Christ a resplendi dans son âme, eh bien, il a compris que toutes ces choses étaient désormais des pertes. Que non seulement ils étaient sans valeur, mais qu'ils étaient des obstacles, qu'ils devaient s'en débarrasser s'ils voulaient plaire à Dieu. Et c'était un impératif d'agir ainsi. Et tout cela à cause de l'excellence. Le terme ici, c'est vraiment la connaissance supérieure, la connaissance suprême de Jésus-Christ, la plus grande connaissance qui soit de celui qui est devenu notre justice, notre unique justice devant Dieu. On peut parler ici du langage de la comptabilité. Avant sa conversion, Paul voyait toutes ces choses, il avait mis tout cela dans la colonne des gains. Et là, il se disait, je suis en règle, j'en ai assez fait. Il savait qu'il était pécheur, il offrait les sacrifices, il devait confesser certaines fautes de temps en temps, je ne sais pas, mais en tant que tel, pour lui, il avait tous les gains nécessaires pour plaire à Dieu. Mais quand la connaissance de Christ a resplendi dans son âme, ce qui était des gains, tout cela était amené dans la colonne des pertes. Il a compris, n'est-ce pas, que non seulement il n'avait pas fait ce qui était nécessaire pour plaire à Dieu, mais qu'il était en faillite face à Dieu, au niveau de la justice que Dieu requiert, qu'il était en pleine banqueroute. On peut prendre l'image aussi du naufrage. Hein? À cette époque, lorsqu'on voyait que le bateau allait couler, même si on avait avec soi une cargaison extrêmement coûteuse, lorsqu'on arrivait au moment où on se disait c'est soit la cargaison et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On jetait tout par-dessus bord. L'idée, c'était de se sauver nous-mêmes, tout simplement. Ce que Paul nous dit ici, c'est que pour être sauvé, j'ai dû reconnaître que je n'avais aucun mérite. Bien au contraire, que malgré les apparences, que j'étais un pécheur misérable qui méritait la pleine et entière condamnation de Dieu. Et il nous dit qu'il n'y a pas d'autre canal pour plaire à Dieu et pour expérimenter sa vie et sa puissance. Et c'est parce que l'Évangile n'est pas annoncé dans sa plénitude que l'Église se trouve dans l'état spirituel où on la voit présentement. Une vision floue ou atrophiée de l'Évangile produit nécessairement une vie chrétienne floue et atrophiée. Et celle-ci ne manquera pas, ça ne veut pas dire que cette Église va manquer nécessairement de conviction, qu'elle ne fera pas d'œuvre, qu'elle ne se dévouera pas à certaines causes, qu'elle ne fera pas de grands sacrifices même. Mais la question se pose toujours, d'où proviennent ces vertus? D'où est-ce qu'elles émanent? De la vie de Christ ou de la chair? Le vieil homme est un imitateur. Il aime se draper des vêtements de la vertu. Mais toutes ces choses n'ont aucune valeur devant Dieu. N'ont de valeur devant Dieu que ce qui est le fruit de l'esprit. Et pour l'expérimenter, il faut demeurer sur le terrain de la foi. Sauvé par la foi seule, du début jusqu'à la fin. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est de la chair est inimitié contre Dieu. L'Évangile, le véritable Évangile, lorsqu'il est bien compris, lorsqu'il est bien assimilé, lorsqu'on le digère, lorsqu'on l'approfondit, nous dépouille de toute capacité à accomplir quoi que ce soit de bien par nous-mêmes et nous convie à une dépendance totale envers Christ. Alors, je ne suis pas en train de dire ici que si je n'ai pas une telle conviction que je dois tout simplement me laisser aller, nous avons l'obligation de servir le Seigneur. Nous avons l'obligation de marcher dans ses voies, mais nous ne pouvons le faire par nous-mêmes. Il faut marcher sur le terrain de la foi, du début jusqu'à la fin. L'Église ne peut produire du fruit véritable que si elle est nourrie de l'Évangile. Nous ne pouvons rien faire sans notre Sauveur, qui est le CEP, et dont nous sommes les serments. Jean, chapitre 15, les versets 1 à 16. Texte que nous connaissons certainement très bien, mais que nous avons besoin de nous rappeler constamment. Le Seigneur de dire à ses disciples, « Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, c'est l'idée de demeurer. Comment est-ce qu'on demeure en Christ? En demeurant sur le terrain de la foi et de la foi seule. en sachant que nous sommes indignes de tout cela, mais que nous recevons toutes ces grâces, toutes ces bénédictions de la main de notre Dieu, plein de miséricorde, qui a donné son Fils pour nous. Alors, tout serment qui porte du fruit les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Nous voyons ici aussi les fruits qui découlent du fait de demeurer dans le Fils, de demeurer dans le véritable Évangile. Marcher par la foi seule ne conduit pas à une vie stérile, mais une vie plein de fruits pour notre Dieu. Et c'est en fait le seul canal possible pour cela. Nous pouvons imiter l'œuvre de Dieu, mais on ne peut pas la produire. C'est lui qui l'a produit en nous. Et pour cela, il faut demeurer en Christ. Et il ajoute ceci aussi au verset 12 à 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Certainement que c'est le commandement le plus difficile à vivre. Et nous voyons l'Évangile en action, l'Évangile qui porte du fruit, quand nous voyons l'amour de Dieu se manifester en nous. Cet amour, il manque grandement à l'Église du Seigneur. Nous avons tous besoin, sans exception, de croître dans un tel amour. Mais c'est impossible si nous ne demeurons pas attachés au sept. Si nous ne demeurons pas sur le terrain de la foi, les yeux rivés sur celui qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour nous, justement. Qui a accepté de souffrir au-delà de tout ce qu'on peut imaginer afin de nous racheter d'une perdition éternelle. Ce don du Père, celui qui est le Fils éternel du Père, celui qui est aimé du Père et chéri du Père de toute éternité, mais que le Père a donné pour nous. C'est l'Évangile. C'est le cœur de l'Évangile. C'est lui qui est venu afin de nous arracher de notre perdition et de devenir notre justice. Dans l'Église de Rome, il y avait des dissensions, des tensions, notamment entre les Juifs issus du judaïsme et ceux qui étaient issus du paganisme. La réponse à Paul, c'est que désormais nous sommes un en Christ. Il fait référence au fait que vous, les païens, vous étiez en dehors autrefois et tout simplement parce que vous ne cherchiez pas Dieu. Dieu vous a abandonné. C'est un jugement. Pour les Juifs, vous avez reçu la révélation, mais vous l'avez déformé, n'est-ce pas? Vous êtes moqué de Dieu. Et pour en venir à ajouter le verdict, à savoir que nous sommes tous, sans exception, sous l'empire du péché. Mais le fruit, nous qui avons cru, nous sommes le fruit de la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, ces gens qui connaissaient l'Évangile, une bonne église qui allait de pair, qui allait de l'avant, qui proclamait la bonne nouvelle, quand même manquaient à certains égards d'une compréhension plus approfondie de cet évangile, même au niveau de leur identité, même au niveau national. De toute évidence, certains Juifs se considéraient comme au-dessus de par leur propre nationalité. Et ceux du dehors regardaient les Juifs avec un certain mépris en disant que c'était ceux qui avaient été rejetés de Dieu maintenant. Et d'ailleurs, les Juifs étaient haïs, bien souvent des païens et surtout des Romains. Et l'apôtre Paul de dire « cela n'a plus sa place dans l'Église du Christ ». Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous avons tous été rachetés par la pure grâce du Seigneur pour former un seul corps et pour briller pour notre Dieu. Et Paul parle ici à des gens qui vivaient dans ce qu'on peut appeler certainement le cœur même du paganisme à l'époque. Hein, et en disant que l'évangile de Christ avait vaincu ces ténèbres-là et que désormais il devait briller, resplendir et rayonner au sein de son Église. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que Dieu nous garde, frères. Tout particulièrement nous qui sommes appelés au ministère, que Dieu nous garde avec un vif désir d'annoncer l'Évangile à ceux du dehors et à ceux du dedans, à ceux qui ne sont pas appelés à de tels ministères. Dieu, que Dieu nous donne aussi, que Dieu vous donne aussi d'avoir ce vif désir d'annoncer l'Évangile à ceux du dehors et d'entendre constamment cet Évangile. Constamment cet évangile, afin de grandir en lui, afin de ne pas stagner, pour ne pas dire même rétrogresser dans notre foi, de ne pas nous imaginer que nous marchons sur la bonne voie, alors que nous sommes en train d'en dévier justement parce qu'on ne marche plus sur le terrain unique de la foi en Christ Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore une fois pour la puissance, la beauté, la grandeur, la splendeur de l'Évangile. Seigneur, nous te prions dans ta grâce, dans ta grande bonté, toi qui nous as choisis pour le salut, toi qui nous as tant aimés, que tu n'as point épargné ton unique, ton Fils bien-aimé, tu l'as envoyé pour nous, il s'est fait chair, il a vécu parmi nous cette vie parfaite à notre place, il a volontairement accepté de mourir pour nous au calvaire, d'être frappé par toi, d'être rejeté par toi, notre Dieu, de porter la malédiction qui devait tomber sur nous. Notre Père, afin de nous en délivrer, ce Fils que tu as ressuscité, notre Dieu, notre Père. Seigneur, donne-nous de demeurer dans cet évangile, de demeurer dans ton amour, car c'est cela aussi demeurer dans l'évangile, c'est de demeurer dans ton amour. Et certainement que nous voulons prendre à cœur, Seigneur, cette parole de notre Sauveur, que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que tous verront que nous sommes de la vérité, que nous lui appartenons. Notre Dieu, notre Père, nous sommes d'une grande faiblesse en nous-mêmes. Nous avons cette capacité de nous leurrer constamment. Nous avons cette tendance, notre Dieu, à nous reprendre en main, à ne pas vouloir continuer sur ce terrain unique de la foi. Seigneur, de nous glorifier de nos propres œuvres, de nos accomplissements, de nos capacités. Préserve-nous, Seigneur. Nous voulons nous rappeler l'exemple de Salomon, homme doté d'une façon absolument incroyable, qui, ayant reçu tellement de bénédictions et de grâces, Seigneur, sans même s'en rendre compte, notre Dieu a marché dans certains aspects de sa vie dans la chair. Et cela l'a conduit, notre Dieu, jusqu'à l'idolâtrie. Ces dons que tu lui as donnés, Seigneur, il ne les a pas soignés, il n'en a pas pris soin comme il se devait. Il a cru pouvoir, par lui-même, par sa propre intelligence, ses propres capacités, accomplir ta volonté, il s'est laissé égarer. Seigneur, garde-nous. Nous n'avons aucune sagesse en nous-mêmes. Nous n'avons aucune justice en nous-mêmes. Nous n'avons aucune sainteté en nous-mêmes. Seigneur, nous sommes dépourvus en nous-mêmes. Mais nous te bénissons car nous avons tout en Christ. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur lui constamment, notre grand prêtre, qui intercède pour nous jour et nuit. Seigneur, il est notre salut, il est notre rédemption, lui et lui seul, l'unique médiateur, l'unique canal par lequel nous recevons toute grâce, notre Dieu, notre Père. Et dans l'éternité future, alors que nous aurons atteint la perfection, Seigneur, nous saurons que tout cela n'a été rendu possible que par lui. Et Seigneur, il ne nous viendra jamais l'idée de nous glorifier de quoi que ce soit, mais au contraire, nous ne pourrons que constamment jeter nos couronnes à ses pieds et reconnaître que nous lui devons tout, lui, l'agneau immolé pour nos péchés. Notre Dieu, notre Père, soit béni, soit glorifié, soit sanctifié en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.